One, two, three, ho!
En 1933, M. Adolf prend le pouvoir en Allemagne. Et comme il avait été soutenu par les firmes Mercedes et autres Audi de façon importante, il décide que les cyclistes ne peuvent pas rouler sur la rue, mais doivent rouler sur les pistes, qui n'étaient pas obligatoires.
Les Soquettes en titane. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à vous dans Les Soquettes en titane, l'émission dédiée au vélo avec un invité de marque, c'est Jacques de Coster. Bonjour Jacques, tu es à l'origine du GRAC et on aura l'occasion de parler de ce groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens et de toute l'évolution jusqu'à nos jours. En face, nous avons Marie et Eric, vous venez nous parler des brocantes vélos de cyclo. La qualité de l'air à Bruxelles et la mobilité fluide et agréable et l'apaisement des quartiers est une histoire d'écolo ou une histoire en fait de bien vivre en ville tout simplement, quel qu'on soit, de quelle partie on soit. Bah, au risque d'avoir été étiqueté écolo depuis toutes ces années en ayant une émission dédiée au vélo, j'ose dire que c'est pas une question d'être à droite ou à gauche en politique que de vouloir qu'une ville soit respirable et pas polluée et pas congestionnée aussi au niveau de l'automobile. On est toujours dubitatif hein, de ce qui va se faire. Est-ce que Jacques, tu en penses, Jacques de Coster, fondateur du GRAC?
J'ai commencé à m'occuper du vélo dans les années 75. Et justement, un ingénieur, qui ne doit sûrement pas être écolo, revenait d'un congrès à Paris organisé par l'OCDE, l'Organisation des pays développés. Et il avait constaté toutes sortes de choses, il avait fait un rapport, il s'est fait engueuler d'ailleurs par ses chefs, parce qu'il trouvait que c'était tout à fait inadéquat, alors qu'on était dans une civilisation automobile, il parlait de restreindre l'automobile. Donc il y avait des représentants depuis Kyoto au Japon jusqu'à Nottingham en Angleterre, des pays sud-américains, etc., qui avaient toutes sortes de mesures pour limiter la voiture qui était déjà trop envahissante aux yeux de leurs habitants, en 1975. En 1976, je suis tombé sur une conférence de presse de M. Van Alteren, bourgmestre de la ville de Bruxelles, bourgmestre libéral, qui décidait, avec son collège, de fermer le bois de la Cambre. Il expliquait que du temps de Keilig, c'était réservé aux calèches, etc., et que tout cet envahissement d'automobiles perturbait la notion de parc aéré, calme, etc. Malheureusement, il y a eu un changement de majorité et ces projets sont tombés à l'eau. Mais donc, ce qu'on a fait maintenant dernièrement, en fait, un libéral en 76 y pensait déjà. Je signale aussi qu'un libéral...
Le fermer le bois, tu veux dire le fermer le bois de la Cambre, c'est ça?
Ah oui.
C'est ça.
Oui, oui. Oui, oui.
Il y pensait déjà.
Non, c'était décidé par le collège, mais bon, on a vu très souvent que les politiques avaient parfois des idées avancées. Pas tellement avancé par rapport à d'autres villes, mais quand même, il y avait toutes sortes de choses qui montraient que parfois des politiciens avaient des idées, mais que les lenteurs de l'administration faisaient que pour finir, les meilleures volontés se dispersaient et rien n'était fait. Mmh. Enfin, quoi qu'il en soit, on n'a rien fait de tel.
Mais alors, en 1975, quand il y a ce rassemblement sur la place du Jeu de Balle avec plus de 2000 cyclistes, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est dans l'époque du tout à la voiture. On fait venir des autoroutes jusqu'au centre-ville.
Somme toute, c'est 68 qui a donné aux gens l'idée de réagir au lieu d'obéir, comme il se faut, à monsieur le curé, à monsieur le bourgmestre, à monsieur l'instituteur, qui étaient les notables, qui devaient être écoutés et suivis. Et alors, on a vu, par exemple, aux Pays-Bas, il y a eu l'affaire en 65 des vélos blancs, Witteveld. C'était 1000 vélos qu'ils avaient requinqués et qui mettaient librement à la disposition des gens. Quand il y avait des gens dans une rue qui avaient envie d'une certaine évolution de leur rue ou de leur quartier, ils allaient taper sur la table du bourgmestre. On leur envoyait quelques-uns de ces ingénieurs avec des plans. On disait, débrouillez-vous, mettez-vous d'accord entre vous. C'est peut-être ce qui nous manque ici, c'est qu'on a un peu, disons, des experts ont décidé de ce qui était bon pour le bon peuple, et le bon peuple n'a rien compris. et dans certains quartiers où on ne s'était pas vraiment adressé à eux, brusquement on leur met des sens unicomposés, etc. Donc il faut discuter, il faut parler. Et ça c'était en 72 quand j'étais aux Pays-Bas. M'ennuyant, j'allais à la Cédeloc Bibliothèque et je lisais Le Monde. Deux choses que j'ai trouvées dans Le Monde. D'une part, un banquier hollandais qui travaillait à Paris, en courrier des lecteurs au Monde, disait « Vous êtes drôles, vous les Français. Vous commencez à parler d'environnement, mais vous ignorez totalement un petit objet très utile dans la circulation. Moi, banquier, j'ai deux vélos. Et le matin, je vais de ma maison jusqu'à la gare. Je prends le train, je prends mon deuxième vélo et je vais parquer sous ma banque. Tout est simple, tout est facile pour moi. » Pas d'embouteillage. Alors je me suis dit, je vais essayer de trouver ce monsieur. J'ai donc été le voir. Et alors, deuxième chose, le Club de Rome, en 1972, a publié une petite brochure sur les limites du développement. J'ai acheté un vélo, et alors ça commençait à bouger. L'ARO avait été créé, l'atelier de recherche et d'action urbaine, justement pour lutter contre la bruxellisation, c'est-à-dire le rasage de quartiers entiers comme le quartier Nord, etc. Et donc, il y avait déjà une certaine controverse. Et alors, revenant de Hollande, il y a la guerre du Kippour, la crise du pétrole, les premiers dimanches en voiture, on s'entendait dans les rues, on pouvait se parler et s'entendre.
Donc à cause du manque de pétrole,
et
la crise
alors,
du pétrole.
Là, j'ai rencontré l'un ou l'autre à bicyclette. Et alors, ensemble, on s'est dit, on va faire une manif. On a eu des contacts à gauche, à droite, et de fil en aiguille, on était 2500. Le CATU avait eu la bonne idée de faire des petits papiers, quelques conseils, ne chahutez pas les automobilistes, donc soyez polis, etc. Et au bas, il y avait un petit talon réponse, si vous voulez continuer le combat, mettez votre nom, etc. On a eu en prêt un local de la commune, et on a fait notre première réunion, et on était une dizaine, une quinzaine. Mais pendant longtemps, on a battu le beurre.
Hein. Ah bon?
Tout le monde se fichait de notre balle. Même des alliés qu'on pensait naturels, comme les comités de quartier, comme la Ligue des familles, nous a battu franc, on se moquait de nous. Enfin, c'est ridicule, pensez qu'on a un vélo, vous vous rendez compte. La ville n'est pas pour le vélo, il n'y avait plus de cyclistes. Il faut dire que les années précédentes, les ministres nationaux avaient supprimé toutes les pistes cyclables. Et il a fallu 50 ans pour qu'on récupère des pistes simplement peintes sur le sol. Et on a fait plusieurs enquêtes dans les écoles. Mmh. Et là, c'était partout la même chose. On a pu interroger plus de 3000 enfants dans les années 77-78. Partout, les enfants disent qu'il y a 2 ou 3% qui peuvent venir à vélo. La plupart, sauf ceux qui habitent évidemment à 5, 6, 7, 8 kilomètres, voudraient venir à vélo. Mais pas de possibilité, crainte des parents, justifiée, il faut le dire. Bon, on disait, il faut d'abord convaincre les gens qu'on est en face de nous, donc il faut y connaître quelque chose. Et alors on a commencé à faire des visites, des voyages à l'étranger. On avait un mot d'ordre au GRAC. Tous ceux qui peuvent rencontrer des cyclistes, rencontrer des ingénieurs, des professeurs qui dans leur école apprennent aux enfants à rouler à vélo, etc. Enfin, quiconque les interviews, font des photos d'aménagement, demande comment ça fonctionne, etc. Comme ça qu'on a appris de cyclistes hollandais qui n'utilisaient pas les pistes cyclables, les fameuses pistes cyclables hollandaises, que c'était sur les pistes cyclables qu'il y avait le plus de viols. Parce qu'il y avait beaucoup de zigzags, on passait derrière des arbres, il y avait des petits tunnels, etc. Et j'ai même mauvais. Des trucs « eng pour fiets », angoissant pour les cyclistes. Bon.
En Hollande?
Oui, en Hollande. Ah, ouais. En Hollande. Mais évidemment, on a d'abord été aux Pays-Bas, enfin, on a été aussi en Angleterre, on a été en France, bon, on a été un peu partout en Europe, parce que pour professionnellement ou pour les vacances, on pouvait aller à gauche et à droite. Enfin, généralement, c'était plus au sud qu'au nord. Enfin, je trouvais qu'au nord, le Danemark, c'était pas mal. On a fait un congrès. Le seul congrès du GRAC, c'était en 1980, qui a précédé d'ailleurs le premier Vélocity organisé à Brême au niveau de l'Europe. On a fait vraiment tout ce qu'il fallait pour d'abord être au courant, ne pas dire des bêtises, parce que pour tout le monde, ah, il fallait des pistes cyclables. Il fallait des pistes cyclables. Mais quelles pistes cyclables? Est-ce qu'on peut mettre des pistes cyclables partout? il y a la question de largeur. Mettre une piste cyclable de la largeur du guidon, c'est absurde. Surtout dans une côte où on sait que le vélo, il va un peu en zigzag. Bon, etc., etc. J'ai été balayé à Amsterdam, où j'ai rencontré un ingénieur qui m'a prouvé avec statistique à l'arbre que, en fait, c'était la catastrophe aux Pays-Bas. Et que s'il faisait un effort, c'est parce que tous les 10 ans, la moitié des cyclistes disparaissent. Parce qu'il y avait un étalement urbain, on construit la campagne, et du coup, les distances sont plus longues, du coup, c'est plus difficile pour les cyclistes, les routes ne sont pas préparées pour avoir des pistes cyclables, etc., etc. Et donc, aux Pays-Bas, il y avait une diminution drastique, et seules les fameuses crises pétrolières ont fait réfléchir les dirigeants hollandais, se disant, mais nous devons payer le pétrole. Et comme on sait, les Hollandais sont près de leurs sous. Et donc, étant près de leurs sous, ils se sont dit, on doit dépenser moins de pétrole. Et donc, nous allons redévelopper ce système qui fonctionnait jadis.
On est dans les années 80, et il y a déjà ce dialogue avec les politiques, alors.
Devant le mur d'incompréhension. Il faut dire qu'après l'Expo 58, les tunnels à Bruxelles, les autoroutes les plus larges d'Europe, éclairé la nuit à Giorno, il y a eu une aspiration, disons, de la population vers l'emploi de la voiture. Et donc, discuter avec les gens, moi parfois je voyais des gens dans la rue qui avaient des ennuis avec leur voiture, souvent en hiver, on entendait les voitures qui... Bah, donc je poussais un peu la voiture, j'en profitais pour interviewer, mais bon, les gens n'imaginaient pas autre chose que leur voiture.
Mais c'est un modèle de société, puisque les classes moyennes partaient en périphérie de Bruxelles.
Oui.
Non, les classes populaires ont repris, eux, par contre, la place des classes moyennes qui sont parties.
Une bande dessinée de Sempé, vous connaissez, oui, le dessinateur. Sempé. Et on voyait une ligne du temps. Au début, le vélo est pris par les bourgeois qui roulent leur vélo, leurs grands billets, etc. Puis une lutte des suffragettes anglais, surtout, pour conquérir le vélo qui était interdit aux femmes, parce que obscène.
Ah oui.
Obscène. D'ailleurs, on a inventé la selle haricot pour ne pas avoir cette espèce de pointe-là, de selle pointue qui donne des idées. Bon, le patron a ses premières voitures qu'on doit remonter là-bas avec manivelle, etc. Mais ça devient chic, ce qui fait que les classes dirigeantes passent à la voiture. Et les classes populaires découvrent le vélo. Mmh. Et alors, on va de l'usine à vélo. Et puis, quand en 1936, il y a les congés payés, tout le monde part en vacances à vélo. Après ça, on démocratise la voiture, et les ouvriers et les classes populaires achètent des voitures. La dernière image, c'est le patron qui va à son boulot en vélo. Donc, il y a eu un tournement là. C'est pour ça que souvent, on parle des bobos à vélo, etc. Mais donc, il y a une espèce d'évolution de la situation. En 1933, M. Adolf prend le pouvoir en Allemagne. Et comme il avait été soutenu par les firmes Mercedes et autres Audi de façon importante, il décide que les cyclistes ne peuvent pas rouler sur la rue, mais doivent rouler sur les pistes, qui n'étaient pas obligatoires. Pour résumer, parce que je voudrais quand même que mes voisins puisse intervenir dans la conversation aussi. Il y a toutes sortes de découpages en différentes périodes. Là, il y a beaucoup de gens qui commencent à penser vélo. Il y a des tas d'ouvrages plus ou moins philosophiques là-dessus. Mais en gros, on pourrait dire une première époque, en tout cas pour nous, et une série d'autres associations. 75 est vraiment le point de départ. Alors peut-être qu'il y a eu une étoile filante, particulièrement bénéfique, qui est passée dans le ciel, réveillant les... En tout cas, nous avons été parmi les premiers. Puis il y a eu le cadre à Strasbourg. Les Danois qui avaient un club de cyclotourisme qui s'est reconverti à l'usage urbain. Et le Cyclist Touring Club anglais qui a fait la même chose. Ce qui fait que plus tard, on a pu récupérer leurs brochures et simplement les traduire en français. La première époque, c'était visiter les environs, interroger les cyclistes, si possible les autorités. Je dois dire qu'à l'étranger, on a toujours été accueillis avec beaucoup de gentillesse. Je me rappelle deux voyages, on avait été de Bakom au nord d'Amsterdam jusqu'à Bruxelles à vélo, et on avait écrit à toutes les communes qu'on traversait en disant « Nous venons de et nous allons à. Qu'y a-t-il à voir dans votre commune? Y a-t-il des gens à rencontrer ?» etc. On a eu des tas de réponses aux Pays-Bas. Arrivé en Belgique, il y avait encore toute la flotte jusqu'à Bruxelles. On n'a jamais eu de réponse. Je dois dire qu'à l'étranger, on avait beaucoup d'accueils intéressants. Mais évidemment, on n'aurait pas charité, sauf peut-être là où il y avait ces réunions avec les cyclistes locaux. Ben, on passait. Le lendemain, on n'était plus là pour embêter les gens. Donc, ils pouvaient ouvrir leur dossier éventuellement. Et donc, on a beaucoup appris.
Et le GRAC a quand même eu pas mal de... a aidé à pas mal d'avancées pour les cyclistes en Belgique.
Ah, nous avons été reçus par Sa Majesté le Roi Baudouin.
Ah bon ?
Nous promenons, organisons des visites à Bruxelles pour voir ce qu'on pourrait améliorer, demander si on peut faire ceci, là, on peut faire ça. Se présente à nous une personne qui, à l'époque, était substitut du procureur du roi de Bruxelles et qui participe à nos débats. Puis il nous invite à donner quelques idées sur le code de la route. Mais évidemment, il n'était pas seul à décider. Il y avait des grands ciseaux, des autorités publiques qui, toutes nos idées, pas poubelles. Et on a constaté que Baudouin était une personne assez étonnante aussi. Enfin, on lui a demandé d'intervenir. Il est intervenu via la Fondation Roi Baudouin, mais comme vous savez, en Belgique, le roi n'a pas grand-chose à dire. Enfin, c'est un souvenir amusant.
Cyclo, ils ont aussi fait pas mal de choses, mais c'est un peu après quand même tout ça. C'est plus tard.
Enfin, voilà.
Toi, tu as quel âge, Rick ?
34.
34.
34, oui.
Et tu as été mécanicien vélo pendant combien de temps ?
Pendant 7 ans au total.
Et du coup, là maintenant, tu es chez Cyclo, tu es avec Marie aussi. Hein. Marie, n'hésite pas.
Ouais, salut.
Ma patronne. Depuis,
tu ne fais plus vraiment de la mécanique, mais tu es resté dans le vélo.
Oui, c'est ça. Je suis chargé de brocante et de workshop. Donc j'enseigne un peu la mécanique maintenant.
Okay.
Et je co-organise les brocantes de vélo, de cyclo. Je viens d'arriver chez Cyclo.
Ah,
ça fait 3 mois.
Hein. Et toi Marie, ça fait combien de temps que tu es chez Cyclo ?
7 ans.
Ah ouais, quand même.
Voilà.
Et tu donc occupes quelle fonction ?
Je suis co-directrice. Chez Cyclo, on est 4 co-directeurs. Et donc je suis une des 4 roues de Cyclo.
Donc c'est vraiment tout ce qui aide à remettre le vélo dans les quartiers.
Oui, l'idée vraiment de cycle local, c'est la sensibilisation des cyclistes et le travail avec des partenaires, soit dans l'atelier participatif où on accueille des cyclistes, on accueille des associations, des groupes, des collectifs pour les sensibiliser à la mécanique vélo. Et dans des quartiers où on est en collaboration avec d'autres acteurs, comme par exemple des communes ou d'autres structures associatives, des contrats de quartier. Et l'idée, c'est toujours d'amener les gens, d'amener le public vers le vélo en passant par la mécanique.
Mais à les aider aussi à se mettre en selle.
Oui, mais on ne donne pas de cours pour apprendre à rouler à vélo. On donne vraiment accès au vélo, c'est ça l'objet du projet Brocante. Mm-hmm. Et on donne aussi accès aux outils, à la mécanique vélo. Ça peut paraître très lointain. Rick, récemment, t'as développé des jeux de société qui parlent de vélo. Et donc, parfois, avec des groupes d'enfants, on peut amener l'intérêt du vélo, amener l'intérêt vers la mécanique, vers la réparation, en faisant des petits jeux, en manipulant des outils, en jouant avec des pièces.
C'est le début de l'indoctrination.
Voilà.
Ça commence avec un jeu.
Ça commence avec un jeu.
Mais c'est pour la bonne cause. Donc, les ateliers participatifs, pour aider les gens à se mettre à la pratique de la mécanique, mais pour des petites réparations de tous les jours. Hein, des pneus crevés, des patins de frein à changer, des câbles de frein.
Ça peut être parfois plus compliqué en fonction des compétences du cycliste.
Oui, c'est ça.
Mais l'idée, c'est plutôt pour des petites réparations pour lesquelles les gens sont autonomes. Ou bien ils peuvent aussi avoir l'encadrement d'un mécanicien pour vraiment des choses assez basiques qui peuvent être réalisées en quelques heures.
Oui, il y a des possibilités de commencer chez vous une formation qualifiante.
Oui, donc on accompagne de manière permanente 32 personnes qui sont en formation et en stage. Et alors, il y a 2 rentrées par an.
Ça, hein. Février et octobre ?
Octobre et février. Et donc, on cherche constamment des nouveaux collègues qui sont dans des situations type CPS ou chômeur longue durée, contrat PTP, ECOSOC, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Mais on a constamment des places pour des nouveaux collègues qui ont envie de devenir mécanicien ou mécanicienne. Qui ont envie d'apprendre chez Cyclo le métier et puis de faire leur stage chez Cyclo. C'est une formation qualifiante et on organise même des possibilités de validation des compétences pour que ces personnes aient plus facilement accès à des postes de mécanicien ou de mécanicienne dans l'économie dite conventionnelle, classique, chez des vélocistes, voilà. Par exemple.
Ouais. Là où c'est plus cher que chez Cyclo.
Ouais.
Parce que ça, c'est intéressant pour les étudiants ici. C'est moins cher, Cyclo. Hein, c'est...
Oui, les prix sont conventionnés, donc c'est moins cher que dans le secteur privé. Et aussi, on accepte tous les types de vélos, donc des vélos parfois que les vélocistes privés n'auraient pas le temps de réparer, ou bien ils n'auraient plus accès aux pièces, ou ça devient très compliqué pour eux de les accepter. Bah, a priori, nous, on accepte tout.
Des vieux vélos vintage, quoi.
Là, voilà, même les vieux Brawl vintage, ouais. Les beaux vélos vintage aussi.
Aussi.
J'en ai envoyé beaucoup à Cyclo, hein, de chez Vélophile ou Morning Cycles.
Ouais.
Dès qu'on voit des clavettes, si ça vous dit quelque chose.
Les pédaliers à clavettes.
Pédaliers à clavettes avec. Ouais. C'est un peu de galère et c'est nos amis des cyclos qui peuvent s'en occuper. Alors,
on peut les rénover, c'est pas obligé de changer le pédalier. On peut garder un pédalier à clavette. Donc c'est le pédalier avec l'espèce de boulon là, qui tient la manivelle, ouais. De pédale. C'est ça, un pédalier à clavette.
Jusqu'ici, j'ai toujours pu éviter de travailler dessus. J'ai jamais touché. Mais, et j'espère que ça va rester comme ça.
À ce point-là.
Donc je suis pas connaisseur, mais je sais que c'est un peu de galère.
Ah ouais. T'es pas connaisseur, mais t'as été mécanicien 7 ans quand même.
Ah ouais, mais on fait pas de vélo avec des clavettes, c'est pas rentable.
Ah ouais.
Dès qu'il y a un moment, en tant que mécanicien de vélo, tu dois pouvoir voir, détecter quand un vélo est perte totale. Et tu dois dire, ah ouais, la réparation, ça vaut pas la peine. Mm-hmm. Oui. La réparation vaut plus que ton vélo, donc on va t'envoyer vers atelier participatif où tu le fais toi-même, ou cyclo, où ça va être peut-être même déjà aussi perte totale.
Il y a, voilà, un schéma d'ailleurs sur votre site, le site de Cyclo, il y a un schéma systémique pour savoir si tu as un vélo, qu'est-ce que tu en fais.
Oui,
en fonction de son état, c'est assez bien fait, s'il mérite d'être restauré, enfin explique un peu.
Donc si tu as un vieux vélo qui traîne, qui t'encombre, tu peux te poser plusieurs questions. Donc soit est-ce qu'il est en état de rouler ou pas. S'il est en état de rouler, tu peux te demander est-ce que tu veux encore rouler ou pas avec. Si tu ne veux pas rouler, amène-le en brocante. Un vélo qui roule et avec lequel tu ne veux plus rouler, il faut qu'il profite à quelqu'un d'autre. Il y a plein de gens qui cherchent des vélos de seconde main. Donc, ce serait pas bien de continuer à le garder dans une cave. Et alors, s'il ne roule pas, il y a aussi d'autres questions qu'on peut se poser. Soit il est réparable, mais peut-être tu n'as pas envie de le réparer, donc Cyclo peut le réparer pour toi. Soit il n'est pas en trop bon état et tu n'as pas envie de le réparer, tu peux le donner à Cyclo et Cyclo va encore le reconditionner pour le donner pour des projets solidaires, comme par exemple Vélo Solidaire. On est toujours à la recherche de vélos pour ce projet. Mmh. Et en fait, ce projet met à disposition de public précarisé, en précarité de mobilité, des vélos gratuitement, en leasing gratuit pendant un an. C'est un projet qu'on fait avec nos amis de ProVélo et des ateliers de la rue Vaut. Et donc les personnes qui reçoivent un vélo, elles apprennent aussi à rouler à vélo. Elles reçoivent aussi des petits cours de mécanique vélo. Et voilà, l'idée c'est qu'elles aient le package complet pour pouvoir se mettre en selle avec à la fois le vélo, à la fois la pratique et à la fois l'accès aux outils.
Donc vous récupérez pas mal de vélos pourris, on peut le dire, et s'il y a quelque chose qui n'est pas rouillé dessus, ça vaut peut-être la peine de l'envoyer au projet de vélo solidaire. Oui. Et par contre, si tout est rouillé dessus, là c'est la déchetterie, Bruxelles Propreté, Recyparc.
Voilà, Recyparc.
C'est ça, c'est ça. Hein, ne leur amenez pas votre vieux vélo tout rouillé, ça serait un déchet quand même là.
Oui, ça, donc c'est... si la chaîne est rouillée, si le cadre est tordu, s'il n'y a plus rien de récupérable, voilà, alors évidemment, ouais, il va finir en...
Un très bon déchet métallique.
En déchet métallique, voilà.
Mais sinon...
et là, on arrive au but des brocantes.
Voilà.
Donc, s'il y a des vélos qui traînent.
Oui, c'est un projet qui a vraiment pris plein d'ampleur ces dernières années. Donc, il y a de plus en plus de brocantes. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on ne les fait pas tout seul. On les fait toujours avec un partenaire. Il y en a même qui se font sans nous. Et l'idée, c'est que comme la demande est là, on peut aussi prêter du matériel à tous ceux qui voudraient organiser leur propre brocante vélo.
C'est toi qui fais tout ça?
Non.
C'est pas, vous n'êtes pas tout seul.
J'organise. Ouais. Il y a des têtes derrière, moi je viens d'arriver, je co-organise, je suis sur place, je check les vélos, je vends avec, je transporte la grande remorque avec tout dedans, je suis là pour utiliser la physique.
La force physique.
La force physique. Ouais.
Il est le responsable mécanique vélo sur toutes les brocantes.
Il y a des têtes derrière, hein, qu'on ne voit pas, il y a Marie entre autres.
Mais donc cyclo, ça fait 20 ans que ça existe, je crois.
Oui. Hein,
bon, le GRAC, c'est 50 ans l'année prochaine, en mai prochain, je pense.
Mais cyclo est
un bon partenaire. Hein.
Ah oui.
Oui, cyclo, l'ASBL cyclo que Marie et Eric représentaient aujourd'hui, vous faites aussi des parkings vélos. Vous, cyclo parking, c'est vous qui gérez ça.
Alors cyclo parking, c'est plus nous.
C'est plus vous.
Ça a été repris.
Okay.
Donc tout ce qui est parking, box à vélo, parking de proximité.
C'est vous aussi qui récupérez les épaves.
Alors nous, on fait la mission de récupérer les vélos abandonnés dans la rue. Donc n'importe qui peut signaler un vélo abandonné dans la rue via Fix My Street. Puis il y a toute une procédure qui met en lien les communes, cyclos, etc. Et donc en fin de parcours, l'info arrive chez nous quand le vélo peut être enlevé. Et donc nous, on a une équipe qui coupe les cadenas de ces vélos et qui les récupère, qui les garde pour que les propriétaires puissent encore les réclamer pendant 3 mois.
Vous et à la fin. Un autocollant.
Oui, c'est pas nous qui mettons l'autocollant, c'est la commune. Mais et donc après les 3 mois, si personne n'a réclamé le vélo, alors on peut le réutiliser pour des projets, par exemple vélo solidaire.
Un dernier mot sur cyclo ou sur le GRAC.
Peut-être un dernier mot concernant les brocantes. Ce qui est super important dans les brocantes, c'est qu'on ait des gens qui viennent acheter des vélos. Mais ce qui est encore plus super important, c'est qu'on ait des gens qui déposent des vélos.
Merci. Alors, je rappelle qu'il y a le grac.org aussi, hein, même nom de domaine. Mmh. Tiens. Voilà, 19 000 sympathisants du GRAC. Hein, il s'en est passé des choses depuis 1975. En tout cas, merci beaucoup, Jacques. De Coaster et son fils Denis aussi hein, d'être venu avec. Merci beaucoup d'avoir évoqué toutes les origines de ce mouvement et toute la militance liée au cyclisme urbain.
Il y a encore Dynamobile qu'on n'a pas parlé, qui a été créé par le GRAC.
Ça va être trop compliqué. Faudra tu reviens alors, Jacques. Tu reviens nous faire un.
Parmi les balades familiales, on a été de la frontière française à Compostelle à vélo.
Ah ouais?
Avec les Boy Scouts espagnols. Il y avait des gens de toutes les provinces. Ça mérite... On parlait toutes les langues locales.
Ça mérite une émission, Jacques. Ça.
Et alors, on a repris les idées, on logeait dans les centres sportifs. Uh-huh. Et chaque soir, on allait faire la propagande à l'Ayuntamiento, à la maison communale. Et c'est ce qu'on fait avec Dynamobile.
Je vais devoir rendre l'antenne.
Et on fait la pub pour le vélo.
En tout cas, merci aussi à toi, Marie et Eric de l'ASBL Cyclo. Passez un excellent week-end et faites attention sur la route.
Portez-vous bien.
Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. I take a walk down the street today and really hope things move in a peaceful way. Never been the type to really hear what people say. I guess it all makes sense when you reach that age. Start moving to the rhythms of your very own groove. Some people might consider that a little old school, but do what you gotta do to break on through. Cause I'ma do what I can with this check 1-2. I want to, I want to. Yeah, you know how it is. Sometimes I get lost with material things. Technology got me bugging, buying various things, but nothing give me more joy than what my stereo brings. So make them clap to this. And if you wanna get better, keep practicing. If it's time to celebrate, then raise your glass to this. Cause time waits for no one and it's flashing quick, remember that. Walk down the street today and really hope things move in a peaceful way. Never been the type to really hear what people say. I guess it all makes sense when you reach that age.
Zone out, get the microphone out of your hands. If you ain't speaking substance, cause it's part of the plan. From Switzerland, Afghanistan to Japan, make a way to Hamburg, yo, with 12 finger Dan. On the SPMP, whatever you're on, make sure connections and collaboration stay strong. So sway to the vibe and the groove of this song, and just drop all the nonsense that doesn't belong. Take a hit from the bong, but no, I don't condone it. There's so much going on, so we can't control it. It's the signs of the times as the troops unfolding. Got with rising chronos, cause the sound is golden.
take a walk down the streets today. You really hope things move in a peaceful way. Never been the type to really hear what people say. I guess it all makes sense when you reach that age. I take a walk down the streets today. You really hope things move.